France Info.
Bonsoir, le discours de politique générale d'Édouard Philippe, édition spéciale Les Informés ce soir avec Audrey Gautard. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info avec Saveria Rojec, bienvenue.
Bonsoir.
Journaliste politique sur Public Sénat avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico. Et vous, Arnaud Benedetti, bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Édouard Philippe, devant les députés, a donc décrété des urgences tous azimuts, ainsi que l'accélération écologique des réformes dans les 12 prochains mois.
Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progresse beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique.
Alors Audrey Gautard, on va parler de l'accélération écologique en question, mais tout d'abord, première impression sur ce discours.
L'impression quand même qu'il a voulu à la fois plaire à sa frange de droite et sa frange de gauche. Donc une espèce de discours qui se voulait conciliant avec les uns et les autres et rassembleur, puisque finalement, le Premier ministre s'en sort bien après une longue crise. Il est toujours Premier ministre. Et voilà, c'est pour lui une vraie victoire. Et maintenant, il va falloir transformer l'essai.
Ça va y arriver, vous êtes d'accord? Il y en avait pour tout le monde aujourd'hui?
Il y en avait pour tout le monde. C'est un peu le en même temps cher au macronisme. Je trouve que c'est un discours que j'ai trouvé volontariste, énergique, mais qui néanmoins manquait de souffle, manquait de lyrisme, manquait de projets.
Vous voulez dire dans le contenu ou dans l'emballage?
Oui, dans le contenu. J'ai trouvé néanmoins qu'il a joué collectif en citant son équipe, en citant ses ministres. Il a également appelé à l'unité, au rassemblement, en tendant la main à l'opposition. Il y a eu, on le sait, beaucoup d'annonces, des annonces marquantes. La PMA, c'est un marqueur de gauche important. Là où le bas blesse, on va sans doute en parler, je trouve que c'est sur l'écologie. Ce n'est pas le grand soir de l'écologie attendu.
D'accord avec ça, Jean-Sébastien Ferjou, ce n'est pas le grand soir écologique?
Non, mais fallait-il que ce le soit? Pour le coup, moi, ce que je trouve assez étonnant dans ce discours-là, c'est que sur la forme, ça passe. C'est pas très exaltant, mais enfin, c'est Édouard Philippe qui n'a jamais été très exaltant.
C'est un discours de politique générale
en matière, oui, non, mais voilà. Donc, après, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a essayé de théoriser un peu pour coloriser, en quelque sorte, l'acte 2 du quinquennat en même temps écologique. Je ne suis pas décroissant, je reste pour la croissance, je reste pour une économie productive ou productiviste, mais en même temps respectueuse de l'environnement. Et on voit bien que c'est un peu le degré zéro de la réflexion en quelque sorte. N'importe quelle grande entreprise fait ça dans ses ses intentions de responsabilité sociale, éthique, environnementale depuis 15 ans. Le monde fonctionne dans les faits comme ça. Donc ça ne dit rien si ce n'est que ça finit par diluer la cohérence qu'il y avait dans le macronisme initial, puisqu'il y avait quand même une cohérence dans le macronisme initial qui était de croire que c'est l'économie et le bon fonctionnement de l'économie qui permet ensuite d'atteindre d'autres objectifs. En premier lieu ceux de justice sociale, de pouvoir d'achat, mais aussi environnementaux. Et là, on ne voit plus justement où est la cohérence, parce qu'il y a des mesures, mais ces mesures-là, elles partent un peu dans tous les sens.
Vous voulez dire c'est trop catalogue, c'est ce que vous voulez dire ce soir? Un peu catalogue,
mais un peu
complet,
un peu diffus. Il n'y a plus de cohérence idéologique, et à un moment où finalement Édouard Philippe se retrouve plus en position d'être chef d'une majorité qu'il ne l'était avant, enfin il l'était en fonction, mais moins dans les faits, on aurait pu imaginer aussi qu'il cherche à cimenter un peu plus ce nouvel électorat de droite qui s'est arrimé au macronisme.
Arnaud Benedetti, au niveau des attentes après 6 mois de gilets jaunes, au sortir des européennes, vous êtes d'accord avec ce qui est dit autour de la table?
Moi, j'ai trouvé que c'était un discours qui, finalement, en termes de marqueur, finalement, faisait plus de concessions à une aile que je qualifierais d'écolo-sociétale plutôt qu'à l'aile droite. Et c'est assez surprenant parce que, quand même, quand on regarde l'évolution du cœur et de la base électorale entre 2017 et 2019 du macronisme, on aurait pu penser que, finalement, on allait mettre le moteur et faire forcer le moteur plutôt à droite. Et là, en l'occurrence, on a voulu, d'une certaine façon, peut-être rassurer la jambe gauche, en tout cas à travers notamment l'annonce.
Parce que la droite a été servie quand même ces derniers temps.
Elle a été servie, oui. Bien évidemment, mais on pouvait penser que justement le renforcement du cœur électoral à droite allait d'une certaine manière donner peut-être encore plus de force à cette aile droite. Et là, en l'occurrence, j'ai le sentiment qu'on fait faire à un Premier ministre de droite peut-être un certain nombre de concessions à une gauche qui est d'ailleurs plus sociétale que sociale.
Audrey Goutard.
On va décider quand même d'une baisse de près de 27 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, une baisse d'impôts. C'est tellement de droite que ça ne peut que faire plaisir à la frange de droite aussi. Donc c'est pas. Je pense que chacun en a eu pour soi.
Et parce qu'encore une fois, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas oublier des 6 mois dont on sort de cette énorme crise des Gilets jaunes et qu'il fallait effectivement, comme vous le dites, donner des gages à l'aile gauche, donner des gages aux Gilets jaunes, à cette France d'en bas. Et il y a aussi, voilà, il y a eu des annonces pour les mères célibataires, les familles monoparentales. Tout ça, c'était vraiment des revendications des Gilets jaunes.
Mais sur l'écologie, en termes de contenu, il n'y a pas énormément de choses.
Il y a quelques annonces, il y a des confirmations. Oui. L'opposition dit que ce sont des mesurettes. Alors, il y a la fermeture de Fessenheim, mais on le savait. Il y a le projet de loi anti-gaspillage qui doit être présenté début juillet.
Oui, la disparition des gobelets en plastique. C'est pour ça que vous n'avez pas d'eau ce soir, d'ailleurs.
Les gobelets en plastique. L'arrêt du plastique dans l'administration. Oui. Mais voilà. Mais encore une fois, et je le redis, à mon sens, c'est pas un grand soir de l'écologie, alors qu'on attendait ça.
Quand on donne, un gouvernement est là pour donner une impulsion, c'est quand même la première fois qu'un gouvernement met l'écologie en tête de gondole de toutes ses annonces.
Les Grenelles de les gouvernements,
dans un discours de politique générale,
c'est devenu la tarte à la crème.
Non, mais après, il faut voir ce qu'on en fait, effectivement. Mais cette impulsion est donnée. Et il est difficile ensuite de revenir en arrière.
Jean-Sébastien. Mais où est-elle donnée l'interdiction de l'élimination des invendus, qui est une mesure parfaitement anti-économique, qui n'a aucun sens. On ne parle pas là de gaspillage alimentaire, mais du reste de la production.
Décider de faire de l'écologie, c'est des choix politiques.
Ce sont des gadgets parce que ce sont des symboles. Investir sur l'éolien, fût-il offshore, ça n'a pas de sens puisque de toute façon, c'est une énergie. Si ça en a un, je vais vous dire lequel ça a, c'est que ça fait monter les prix de l'énergie et que effectivement, dans un marché, le seul moyen de faire renoncer les gens à consommer de l'énergie, c'est de monter les prix. Donc, mais au moins, autant l'assumer.
Vous trouverez dans chaque mesure écologique, effectivement, des points positifs, des points négatifs. Ce qui est important, c'est de donner une impulsion. Je ne dis pas que ce gouvernement est un gouvernement follement écologique, mais néanmoins, en donner l'impulsion, c'est un discours.
Le gouvernement Ségolène Royal avait entendu le porter du temps du quinquennat de François Hollande. Souvenez-vous, justement, à la mi-temps du quinquennat de François Hollande,
on
avait déjà
position.
Fait ce coup-là. Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi.
En tous les cas, je vous rappelle le propos je vous rappelle le propos d'Édouard Philippe. Plus personne, a-t-il dit, n'a le monopole du vert. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise nucléaire, j'y ai mis du temps, les jeunes nous bousculent, donc il est peut-être un petit peu en phase découverte des choses. Il faut attendre un petit peu la suite. 20h10 sur France Info, en tous les cas, c'est le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Les députés accordent donc leur confiance au gouvernement. Vote sans surprise à l'Assemblée après le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Une prise de parole d'une heure environ avec quelques annonces. Pour la réforme des retraites, le gouvernement va définir un âge d'équilibre. Si l'on part avant, il y aura une décote sur la pension et au contraire, il y aura des incitations pour travailler plus longtemps. Sur les réductions fiscales, le Premier ministre détaille les baisses d'impôts sur le revenu. Une baisse de 3 points sur la première tranche. Cela représentera 350 euros d'économie pour 12 millions de foyers. Et des baisses sur la deuxième tranche aussi, environ 2 fois moindre. Le tout sera financé par des suppressions de niches fiscales. Sur l'écologie, Édouard Philippe en fait donc une de ses priorités. Il veut lutter contre le gaspillage avec l'interdiction des plastiques à usage unique dès 2021. Pour montrer l'exemple, les administrations devront les bannir dès l'année prochaine. Et en matière d'énergie, l'accent sera mis sur l'éolien en mer. Il y aura une nouvelle régulation des tarifs de l'électricité. Le Premier ministre qui, dans ce discours, a salué l'accélération de la création d'emplois privés en France. 90 000 nouveaux postes au premier trimestre d'après l'INSEE. Cela donne une hausse de 225 000 emplois sur un an. Les chiffres sont quasi stables dans la fonction publique. Dans moins d'une heure maintenant, les joueuses de l'équipe de France de football jouent leur deuxième match de la Coupe du Monde. Un face-à-face sûrement décisif pour la première place de leur groupe contre la Norvège. Dans l'autre rencontre de cette poule, le Nigeria a disposé de la Corée du Sud 2-0.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, Jules de Kiss évoquait le vote de confiance. Je donne le résultat quand même, c'est 363 voix contre 163, 47 abstentions, léger retrait à peu près équivalent par rapport à ce qui s'est produit il y a 2 ans. Je vous propose d'écouter Daniel Fasquelle, député Les Républicains du Pas-de-Calais, ancien maire du Touquet.
S'ils continuent à penser qu'ils peuvent diriger le pays sans écouter personne, uniquement parce qu'ils ont eu 20% des électeurs, je pense qu'ils auront demain de très très grandes déconvenues. S'ils sont capables de comprendre qu'il faut être plus modeste à l'écoute des Français, mais aussi des députés de l'opposition. Nous n'avons jamais été écoutés depuis 2 ans. La majorité était complètement fermée. Si elle nous avait écoutés, peut-être qu'on n'aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes.
Alors ça va y arroger, hein, les 81 des 100 députés de la droite ont voté contre. Pour l'instant, l'opposition en est réduite aux commentaires.
Hein. Oui, mais c'est pas tellement une surprise. Alors en 2017, c'est vraiment différent de 2017, parce qu'en 2017, les trois quarts des députés les Républicains s'étaient abstenus. On avait appelé ça une abstention bienveillante. Cette fois-ci,
ce qui se passera au Sénat d'ailleurs demain matin.
Nous verrons ce qui se passera au Sénat, nous en parlerons tout à l'heure. Oui. Mais voilà, encore une fois, on s'attendait à ces votes, à ces massifs votes contre, car la droite, elle n'a aucun intérêt à voter la confiance, ou en tout cas à s'abstenir, à moins de encore plus se diviser, se fracturer, alors qu'elle l'est déjà énormément. Et puis par ailleurs, je pense que Christian Jacob a très bien fait son travail et qu'il a massivement fait du lobbying pour que les députés, les Républicains, votent contre la confiance au gouvernement.
Alors il y a le sujet qui fâche, hein, la réforme des retraites. Pas de date annoncée dans le calendrier législatif. Édouard Philippe qui annonce un âge d'équilibre dans le futur système, même si le départ est maintenu à 62 ans.
Ce nouveau système que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple. Les règles seront les mêmes pour tous. Les mêmes règles pour tous, c'est vrai. Cela signifie aussi la fin des régimes spéciaux. Enfin, le président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité.
Traduction avec vous, Jean-Sébastien Ferjou, dans les annonces, là, concernant les retraites du Premier ministre, il n'y a rien de très nouveau, en fait. Il y a toujours cette idée de retraite à points, avec, au fond, les 62 ans deviennent une sorte de date symbolique, finalement, d'âge symbolique.
Il n'y a rien de très nouveau. Il y a un petit pas nouveau qui est de dire une part de responsabilité pour chacun. Si vous décidez de partir avant un certain âge, vous pourrez avoir une décote ou partir après un certain âge.
Finalement.
Une espèce de surcote, ce qu'il appelle l'âge d'équilibre, effectivement. Après, derrière l'intention globale, parce que personne, enfin si, certainement des gens peuvent être contre, mais ça fait longtemps qu'on dit effectivement qu'il faut unifier les régimes et que les salariés du public notamment soient alignés sur les salariés du privé, que les règles des régimes spéciaux soient alignés sur les autres. Maintenant, le diable est toujours dans les détails, parce que malheureusement, derrière cette intention noble, entre guillemets, se cachent des intentions beaucoup moins louables. Et c'est probablement les salariés du privé qui vont en faire les frais, parce qu'il faut bien payer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire que vous voulez faire converger les régimes. Encore faut-il que, pour les règles convergent, on investisse, parce qu'il faut de l'argent. On les fait converger dans quel sens? C'est-à-dire on monte les uns ou on descend les autres? Et là, vraisemblablement, ce qui se dessine, c'est que le gouvernement fasse main basse sur les 75 milliards de réserves de l'AGIRC, le régime complémentaire des cadres, qui a provisionné son risque pour les années à venir, et que ce soit en quelque sorte les cadres qui se retrouvent le dindon de la farce, parce que c'est eux qui paieront pour le changement des règles qui vont s'appliquer aux fonctionnaires.
On attend un rapport. Je vous rappelle quand même que le gouvernement a commandé un rapport, le rapport Jean-Paul Delevoye qui tombe en juillet. Là.
Entre les lignes, on en saura
plus avant.
Mais il faut rappeler aussi que le rapport de l'autre, rapport celui du Conseil d'orientation des retraites, a été révélé opportunément hier soir pour nous expliquer que le retour à l'équilibre n'était pas avant 2042.
Absolument.
D'ailleurs le financement, je trouve que c'est un autre problème de toutes ces annonces, de tout ce discours de politique générale, c'est qu'on nous annonce 27 milliards de baisse d'impôts. Comment c'est financé? Où ça va aller? Est-ce qu'on va creuser la dette? On nous parle, pour la question du financement, comment financer ces 27 milliards, la seule réponse, c'est on va supprimer des niches fiscales.
Aux entreprises
aux très grandes entreprises.
Oui, il faut rappeler que
c'est là où le bât blesse, hein, sur le financement.
Oui, avec vous, Arnaud Benedetti, à l'instant, Jean-Sébastien Ferjou d'évoquer main basse, hein, sur les caisses bien garnies de l'AGIRC. Qu'est-ce qui pêche dans cette histoire de retraite, au fond?
Moi, je pense que, quand même, il ne faut jamais oublier que Édouard Philippe, c'est un juppéiste. Donc, il a la mémoire politique de ce qui est arrivé à Alain Juppé en 1995. Il sait que ça a été le début du chemin de croix, la question des retraites pour Alain Juppé. Donc, il y va de manière très précautionneuse et il marche sur des œufs. Moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe dans le discours de politique. politique générale, et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est quand même, il n'y a pratiquement rien sur la baisse de la dépense publique, qui est quand même un sujet majeur, et qui là, pour le coup, constitue un vrai marqueur à droite, et qui constituait aussi un engagement très fort,
malgré tout, du président de la République. On a une baisse des annonces de baisse d'impôts, au fond, mais
oui, mais là, d'abord, elles ne sont pas financées. Bon, il y a un autre problème, c'est qu'elles ne vont pas toucher, ces baisses d'impôts ne vont pas toucher l'électorat, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. Les classes moyennes supérieures ne vont pas être touchées par ces baisses d'impôts. Donc ça aussi, c'est une question qui va se poser pour lui.
Alors qu'elle risque d'être touchée par la réforme de l'assurance chômage.
Elle risque d'être touchée par la réforme de l'assurance chômage et la question de la dégressivité, en effet. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez illisible, malgré tout, qui se dégage de ce discours de politique générale. On voit qu'on a essayé de ramasser les pièces d'un puzzle pour redonner de la cohérence après la crise des Gilets jaunes, après la séquence, finalement, même la séquence Benalla. Tout ça avait été un peu perdu. Ouais. Et ce discours de politique générale, je pense que c'était d'abord un exercice de communication politique qui vise à montrer que, finalement, on reprend la main après une période un peu compliquée et un peu difficile. Mais la cohérence politique, elle n'apparaît pas, en tout cas, à première vue.
Vous dites notamment sur les 5 milliards promis pendant la crise des Gilets jaunes et qui, supposément, seront financés par une réduction des niches fiscales. En fait, ce n'est pas ça de documenter une baisse d'impôts. On ne sait pas trop, finalement. Tout reste à bâtir.
On est dans des annonces, oui, aujourd'hui, mais on ne voit pas tellement, je veux dire, l'application et les principes d'application.
Deux grandes réformes que sont l'assurance chômage et les retraites, pour le coup, ils font ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est à peu près, on savait déjà ce qu'il en était, ce que contenaient les réformes, les projets de loi, et c'est ce qui a été annoncé.
13 ans en même temps, voilà, c'est un durcissement.
On ne touche pas l'âge légal, 62 ans.
Sur l'assurance chômage, il y a le durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs, et en même temps, le fameux bonus-malus pour les contrats courts.
Ouais. Et il y a l'indemnisation, ça c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est d'indemniser tous les démissionnaires, 2 ans d'indemnité, on aligne les régimes.
Des conditions restrictives telles que
ça fait le point important de ce discours de politique générale, c'est que ça soit le Premier ministre qui soit en première ligne. Aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est qu'il est en train de vouloir user jusqu'à la corde, et il a tout intérêt à le faire politiquement, son Premier ministre, afin de moins s'exposer. Il a vécu 2 ans où il était dans une période de surexposition permanente. Aujourd'hui, il peut peut-être considérer qu'il fait jouer le Premier ministre, parce que c'est au Premier ministre de faire le job pour le protéger.
C'est l'éternel enfer de Matignon. 20h20 sur France Info, rappel de l'info, avec vous, Jules Dequisse.
363 voix pour, 163 contre. Comme prévu, les députés votent la confiance au gouvernement avec 7 voix de moins qu'il y a un an. Le Premier ministre a détaillé juste avant dans son discours de politique générale les réformes à venir et leur calendrier. Celle de l'assurance chômage sera dévoilée dès la semaine prochaine. Les plus grosses indemnités seront plafonnées. Il y aura un système de bonus-malus pour lutter contre le recours aux contrats courts. La loi de bioéthique avec la PMA pour toutes sera examinée à la rentrée au Parlement. La réforme constitutionnelle pourrait-elle être reportée? Édouard Philippe ne veut pas de son examen sans accord préalable avec le Sénat sur la diminution du nombre de parlementaires. Après ce discours, les groupes d'opposition ont pris la parole. Pour Virginie Duby-Muller des Républicains, il manque de nouveautés. Ce pseudo-acte 2 de votre quinquennat fait surtout office d'un cache-misère un peu réchauffé, a-t-elle lancé. Vous êtes la droite, nous sommes la gauche, a pour sa part résumé Boris Vallaud pour le groupe socialiste. Emmanuel Macron va aussi décerner la Légion d'honneur aux 4 marins sauveteurs rescapés du naufrage au Sable d'Olonne. Il sera demain dans la commune vendéenne pour présider un hommage national aux 3 autres, ceux qui sont morts lors d'une opération de sauvetage vendredi dans une mer démontée. Le chef de l'État a déjà annoncé qu'il leur attribuait la Légion d'honneur à titre posthume. Et puis le prochain Tour de France se fera sans Christopher Froome. Le Britannique, déjà 4 fois vainqueur de la course, déclare forfait. Il s'est blessé tout à l'heure, fémur fracturé dans une chute lors de la reconnaissance de la 4e étape du Critérium du Dauphiné.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis, il y a le marqueur de gauche, l'extension de la PMA aux couples de femmes.
Sur certaines questions, comme l'accès aux origines, le régime de filiation en cas de PMA avec tiers d'honneur, plusieurs options sont possibles. Et le gouvernement a retenu celle qui lui semblait le plus à même, ou les plus à même, de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
Audrey Goutard, pourquoi si vite ?
Enfin, si vite, pardon, mais ça fait depuis 2012 que les...
Mais là, non, mais il a été question récemment de dissocier le texte de la loi bioéthique, de peut-être l'évacuer après...
C'est vrai.
Et soudain...
Donc, et soudain, voilà. Une décision qui...
Fin juillet, voilà, et fin septembre.
Une décision qui traîne depuis 2012, craque, effectivement, est prise là, mais je pense que ce que je vous disais au départ de notre discussion, c'est que il a voulu faire plaisir à toutes les franges de son parti. Et donc, effectivement, c'est une forte demande. C'est une forte demande de l'aile gauche. Et je vous rappelle qu'un Français sur deux est favorable, effectivement, à l'extension de la PMA. Donc, voilà.
Je dirais presque Savary Jacques et pas que. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de séduire les électorats ciblés de gauche qui votent La République En Marche dans les villes au départ de la campagne des municipales?
Absolument. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est une mesure qui divise, on le sait, la majorité présidentielle. Ça a été tranché au dernier moment. Ça a été tranché aujourd'hui, au déjeuner. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont déjeuné ensemble. C'était une des dernières questions.
Vous voulez dire qu'il y a eu du tirage sur la question?
Oui, parce que c'est au sein même de la majorité présidentielle, c'est vraiment un dossier qui divise. On l'a appris également, Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner, qui sont quand même des personnages importants au sein du gouvernement, poussés pour que la réforme soit repoussée après les municipales de 2020. Voilà, donc c'était vraiment, il fallait trancher. Puis alors, par ailleurs, il y a un engorgement du calendrier parlementaire. On ne peut pas tout examiner, donc il fallait faire des choix et trancher entre les réformes. Donc effectivement, faire le choix de cette PMA, c'est un vrai choix, c'est un vrai marqueur de gauche. Ça, c'est indéniable.
Et qui a fait l'objet de tirages dans les arbitrages. Oui. Jean-Sébastien Ferjou, c'était une priorité selon vous?
Ça l'était peu. Alors selon moi, à titre personnel, non, certainement pas. Mais selon la logique politique du gouvernement, oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Savary Rojec. Après, il me semble qu'il y a quand même encore une part d'ambiguïté, ou en tout cas de choses qui ne sont pas totalement réglées, puisque là, Édouard Philippe a parlé du principe, mais il a aussi mentionné le fait qu'il y aurait d'autres questions à traiter, notamment l'impact sur la filiation. Et donc ces questions-là restent quand même ouvertes. Après, encore une fois, il y a les débats philosophiques, les débats éthiques, puis il y a aussi des débats assez concrets justement avec l'impact juridique que ça peut avoir, ou des impacts aussi concrets que le fait qu'il y a une pénurie de sperme, parce que on peut vouloir ouvrir la PMA à toutes les femmes, ça n'empêche pas qu'il faut quand même l'intervention biologique d'un homme dans le processus pour qu'un enfant soit là à l'arrivée. Mais oui, mais vous souriez, mais c'est quand même un véritable enjeu, parce que c'est par ce biais-là bien souvent, non mais je vous parle pas dans les coupes, c'est par ce biais-là bien souvent que entrent en jeu les mécanismes de marchandisation, notamment parce que quand il y a une pénurie, mécaniquement, il faut bien aller le trouver quelque part.
Non, mais vous avez raison, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, mais c'est un débat qui va être... Le projet va être présenté en Conseil des ministres, mais ensuite, effectivement, il passe à l'Assemblée. Voilà, donc tout ça va être discuté, mais ça a déjà aussi été discuté, puisque c'est dans le projet de loi bioéthique que vous avez eu un maximum d'études sur ce thème-là. Toutes ces questions-là, vous avez raison de les poser encore, mais elles vont, à un moment donné, être étudiées et tranchées. Et ça ne fera pas plaisir à tout le monde, ça c'est sûr.
Ça va y arroger, hein.
Toujours sur ce dossier de la PMA, faire ce choix aussi, faire ce choix de réfléchir et de mettre cette réforme au menu du calendrier parlementaire, c'était aussi, si on fait uniquement du cynisme politique, beaucoup dans la majorité, ils voyaient l'avantage de diviser encore plus la droite, parce que forcément un tel texte va forcer la droite et les Républicains, la droite républicaine à se positionner et donc va la fracturer encore plus. Donc certains y voient aussi une manœuvre d'Emmanuel Macron pour fracturer encore plus
la droite républicaine. C'est aussi de la politique, comme le dit à l'instant
Il tire profit de la défaite à droite de la ligne Bellamy, qui était, c'est le moins qu'on puisse dire, réservée sur ce type de sujet. Donc il essaye de solder quelque part cette séquence. Je rappelle quand même que le Comité national d'éthique avait ouvert la voie, en tout cas à la PMA, avec son avis dès le printemps dernier. Donc c'est un sujet qui traîne quand même sur la table et qui en effet est l'objet d'un certain nombre de tensions à l'intérieur de la majorité. Mais si vous voulez, en fait, il avait à arbitrer, pour revenir à sa jambe gauche, si je puis dire, il avait deux façons d'arbitrer. Soit il privilégiait la gauche sociétale ou il privilégiait la gauche sociale. Comme il n'a pas envie de privilégier la gauche sociale compte tenu de son logiciel économique et de son logiciel politique et libéral, il donne quitus à la gauche, il donne, disons, des gages à la gauche sociétale, qui en plus constitue quand même plutôt son cœur électoral dans les grandes villes. Donc là-dessus, c'est quand même, c'est pour lui, je veux dire, un geste qui est sans surprise sur le plan électoral, et c'est ce qui lui permet de se rééquilibrer un peu facialement, facialement à gauche.
Et quand il dit, pour conclure avec vous, Audrey Goutard, les cultures de gauche et de droite n'ont pas disparu, mais elles ne suffisent plus. Est-ce que le Premier ministre est en train d'acter, au fond, la quasi-disparition dite et redite du PS et de LR?
En tout cas, c'est...
Il le dit à la tribune.
Oui, hein, oui, tout à fait. Enfin, c'est effectivement une illustration de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique français et même européen.
Allez, nous allons poursuivre le scanner de cette déclaration de politique générale d'Édouard Philippe dans la deuxième partie. Nous évoquerons notamment le casse-tête de la révision constitutionnelle et le retour de Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve dans quelques minutes après la météo et le rappel de l'info pour la suite des Informés de France Info.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque d'artisanat français de luxe et j'ai choisi Samia en VIE, au poste de responsable marketing, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Jeu d'influence, demain soir sur Arte.
Ils ont le droit d'empoisonner les gens comme ça, personne ne dit rien.
Les pesticides ont fait grandir un sentiment de colère et un désir de justice.
J'ai pas envie de passer pour le ministre qui défend les pesticides, tu comprends ça?
Et le climat est propice aux conflits et aux intrigues.
On récolte ce que l'on sème.
Lobby, pesticides, lesquels sont les plus toxiques? Jeu d'influence, la nouvelle série originale Arte, demain à 20h55 et déjà sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà.
Allez, la météo avec vous, Sébastien Léas, les prévisions pour Météo France.
Demain, on retrouvera encore des averses en matinée entre les côtes de la Manche, les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais. L'après-midi, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France seront encore concernés par des averses, mais ailleurs, les nuages laisseront filtrer des éclaircies plus larges. Les régions de l'Est et du Sud-Ouest profiteront d'une journée ensoleillée vers le Béarn et les plages du Languedoc. Il faudra quand même attendre la dissipation des grisailles matinales. Entre le centre-Val de Loire et la Champagne-Ardenne, le ciel peut localement devenir chaotique demain après-midi et des ondées orageuses peuvent éclater. En fin de journée, une nouvelle dégradation orageuse arrivera sur l'Aquitaine. Les maximales vont progressivement se rapprocher des normales de saison, prévoyez 19 à 28 degrés en général, mais l'ambiance sera plus fraîche sur le nord-ouest avec 16 à 20 degrés.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. L'Assemblée nationale a voté en fin de journée la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe par 363 voix contre 163. Le Premier ministre qui a fait aujourd'hui son deuxième discours de politique générale pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Pas de grandes annonces dans son discours d'un peu plus d'une heure. La réforme de l'assurance chômage sera dévoilée le 18 juin. Un âge d'équilibre introduit dans la réforme des retraites dont le calendrier n'a pas été précisé. Report possible aussi de la réforme constitutionnelle et puis examen de la PMA dès la fin septembre. Voilà pour les principales annonces de ce discours de politique générale auquel les oppositions ont bien sûr répondu, à l'instar du patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Hier, vous avez rappelé que je comptais sur l'élection européenne comme sur un référendum contre votre politique. Mais c'est bien vrai, je l'ai fait et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'était un référendum et vous l'avez perdu. 80% des bulletins de vote se sont portés sur des listes qui vous étaient ouvertement opposées. Vous aviez lancé un défi solennel à l'extrême droite et le président de la République avait dit que si jamais il venait à perdre, il y aurait de lourdes conséquences. Vous l'avez perdu et pourtant vous voulez faire comme si de rien n'était. Vous pensez gouverner contre tout le monde avec 20% des suffrages exprimés et 10% des inscrits. Et cela pour continuer à tout détruire de l'État social et républicain patiemment construit par les générations précédentes.
Voilà Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à l'Assemblée nationale. Parmi les autres réactions politiques à cette déclaration de politique générale, celle du premier secrétaire du PS Olivier Faure, pour qui le compte n'y est pas. Pour Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord, c'était un millimilo sans beaucoup d'intérêt. Enfin pour Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, il manque des mesures pour redresser la situation des finances publiques. La cour d'appel de Besançon laisse le docteur Péchy en liberté sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet qui réclamait le placement en détention provisoire de l'anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 24 patients lors d'interventions chirurgicales. L'équipe de France de football va jouer son deuxième match dans le mondial féminin. Après son succès inaugural contre la Corée du Sud, les Bleus de Corinne Diacre sont à Nice pour défier la Norvège à partir de 21h. Match à suivre en direct sur France Info. Dans le groupe de la France cet après-midi à Grenoble, le Nigeria a battu la Corée du Sud 2-0. Et puis à Valenciennes, l'Allemagne a battu l'Espagne 1-0. Et puis Chris Froome ne sera pas au départ du prochain Tour de France. Le cycliste britannique a fait une grave chute à l'entraînement ce matin à Rouen avant le départ de la quatrième étape du Dauphiné. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle souffre de fractures du fémur, du coude et des côtes. 20h33, les informés, la deuxième partie, Jean-François Achilly.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-François Achilly.
La suite de notre spécial consacré au discours de politique générale d'Edouard Philippe avec Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Saveria Rojec, journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat, avec Jean-Sébastien Ferjou, le cofondateur et directeur d'Atlantico, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Alors il y a une réforme qui est remise à plus tard, c'est celle de la révision constitutionnelle.
La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes proches d'un accord sur le projet de loi constitutionnelle, mais que ce n'est pas encore le cas sur le projet de loi organique, et en particulier sur la question de la réduction du nombre de parlementaires. Et le Sénat a été très clair sur le fait qu'il n'y aurait d'accord sur rien s'il n'y avait pas un accord sur tout. Nous allons donc continuer à chercher à nous rapprocher, mais nous ne mobiliserons pas du temps parlementaire pour, in fine, constater le désaccord du Sénat.
Saveria Rojec, vous nous expliquez.
Ah ben c'est un feuilleton, c'est un peu comme l'affaire Benalla, c'est le feuilleton de la révision constitutionnelle.
Qu'est-ce qui d'ailleurs l'affaire Benalla, on dit les circonstances.
Gérard Larcher, le président du Sénat, dit dans un communiqué en fin de journée, il ne comprend pas le renoncement.
Oui, enfin, ça, il fait de la politique, Gérard Larcher. Oui.
C'est un fin
politique. Alors, ce qui se passe, il y avait deux problèmes, et deux problèmes depuis longtemps. On en a parlé, il y a l'embouteillage parlementaire. La session parlementaire, elle prend fin dans quelques semaines, donc il fallait encore faire des choix. Quel texte on examine en premier? On fait l'assurance chômage, on fait la bioéthique, on fait la réforme des institutions. Ensuite, Édouard Philippe l'avait déjà expliqué hier, aux questions d'actualité à l'Assemblée, il l'a déjà dit. Il avait dit, si on n'a pas la certitude d'aboutir, ça ne sert à rien de s'engager dans ce processus. Donc ça voulait dire ça. Ça voulait dire que si je suis pas sûre de trouver un accord avec le Sénat, on va pas en discuter pendant des semaines et inscrire cette réforme à l'ordre du jour.
Qu'est-ce qui coince? Le nombre de parlementaires?
Concrètement, on est encore assez loin d'un accord. La réduction du nombre de parlementaires, l'Élysée est tombée sur un chiffre de 25% de réduction.
Pas besoin de révision constitutionnelle, on est d'accord pour ça, oui.
Effectivement, on peut le faire sans révision constitutionnelle, mais pour l'instant, le Sénat n'est toujours pas d'accord sur ce chiffre-là. Le Sénat veut un chiffre de 20% de réduction du nombre de parlementaires. Et puis, dernier point, ça c'est une annonce qu'a faite le gouvernement il n'y a pas très longtemps. Le gouvernement, dans cette nouvelle mouture de la révision constitutionnelle, l'article 15, souhaite un renouvellement intégral du Sénat en 2021. Et alors ça, ça a été radical, c'est-à-dire que l'ensemble du Sénat, et ça a été assez transpartisan, a dit « il n'en est pas question ». Donc en clair, ces derniers jours, arrivé vraiment, il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'accord. Donc, ce qu'a fait Édouard Philippe aujourd'hui, il a juste constaté le fait qu'il n'y ait pas d'accord.
Avec un brin de menace.
Jean-Sébastien
et un brin de menace, effectivement, pour terminer, pour être très précis, toujours cette menace du référendum. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a toujours la possibilité d'utiliser le référendum, c'est-à-dire de passer en force. Et Édouard Philippe l'a rappelé tout à l'heure à la tribune.
Jean-Sébastien Ferjou, nous sommes dans la cuisine politique pure, là.
Oui, après une révision constitutionnelle, c'est un véritable enjeu. Mais
C'est ça la question aussi.
Je ne suis pas certain que ce soit une priorité aux yeux des Français, même si les gens disent que les questions, quand on les interroge, ils disent que ça les intéresse. Dans la réalité, c'est rarement le cas. Il faut quand même se souvenir de ce qui est arrivé à Matteo Renzi en Italie, qui sur un dossier relativement similaire, justement, a fait un référendum et qui a fait totalement, qui lui est revenu en boomerang et ce qui a abouti à l'élection, à l'arrivée de l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Donc je ne suis pas certain que la menace brandie là par Édouard Philippe, parce qu'il en a quand même brandi une vis-à-vis du Sénat, en disant sur le nom de parlementaire, on n'a pas besoin de faire la révision constitutionnelle puisqu'on peut passer par une loi organique. Oui. Et pour le reste, Emmanuel Macron pourrait faire un référendum. Simplement, cette menace-là est-elle crédible? Parce que a-t-il réellement intérêt à le faire? Donc j'ai l'impression, pour le coup, que le rapport de force est plutôt en faveur du Sénat et que le gouvernement essaye d'habiller
cette réalité. Et qu'au final, la réforme ne se fera pas.
Audrey Goutard.
Non, mais donner une image de tambouille politique, effectivement, sur un vrai problème, une chose aussi importante. Déjà, c'est très mauvais pour l'image d'un gouvernement et d'une présidence. Ensuite, c'est vrai que en termes de tempo politique, quand on voit quelles sont les priorités des Français depuis ces 6 derniers mois et encore aujourd'hui, c'est évidemment d'autres problèmes. C'est le chômage, c'est effectivement l'environnement. C'est des dossiers extrêmement concrets qui rentrent dans leur quotidien. Et là, on a l'impression d'être un peu hors sol lorsqu'on parle de Constitution et de Sénat. Ouais,
vous partagez ce point de vue, Arnaud Benedetti ?
Non, mais sauf que peut-être les Français souhaitent une réforme institutionnelle qui serait peut-être beaucoup plus profonde que celle qui est proposée par le gouvernement. C'est une question qu'il faut se poser. Mais en l'occurrence, s'il n'y a pas de réforme... Il y a, ben, quand même, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu manifestement, en tout cas, des volontés, certes parfois formulées de manière maladroite, d'un changement institutionnel qui soit un changement institutionnel plus en profondeur.
Vous parlez de la suppression du Sénat, par exemple.
Pas seulement de la suppression du Sénat, le référendum d'initiative citoyenne.
Mais ça, pour le coup, il est prévu dans la révision constitutionnelle.
Il est prévu, mais il est prévu pas vraiment au sens où l'entendent les Gilets jaunes et où l'entendent un certain nombre de promoteurs.
Facilité.
Voilà, il est facilité. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a deux raisons fondamentales. La première raison, vous venez de la rappeler, c'est qu'en effet, dans le calendrier politique, ça n'apparaît plus aujourd'hui dans l'agenda politique comme une priorité, qu'il y a des réformes sociales qui sont certainement beaucoup plus importantes, en tout cas dans le logiciel macronien, à faire avancer. Et deuxièmement, surtout, c'est qu'il n'a pas l'arithmétique électorale pour le faire et qu'il se retrouve aujourd'hui coincé et il attend finalement les élections municipales pour voir si, quelque part, on va pouvoir faire bouger cette arithmétique électorale au niveau du Sénat. C'est pas plus compliqué que cela.
Savaria Rojec de Public Sénat, qu'est-ce qui se passe demain dans vos murs? Parce qu'il y a de nouveaux discours.
Voilà, demain c'est important. Édouard Philippe réitère l'expérience de cet après-midi, c'est-à-dire qu'il se rend demain matin au Sénat pour de nouveau un discours de politique générale, suivi d'un débat et suivi d'un vote. Et il faut le souligner, cette procédure est assez rare. Alors bien sûr, Matignon nous explique le fait qu'il y ait un vote, puisque alors c'est pas un vote qui engage la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire que le Sénat, dans la Constitution, ne peut pas renverser le gouvernement, mais néanmoins, le fait qu'il y ait un vote, Matignon nous explique que c'est pour montrer, effectivement, c'est une marque de déférence, de respect envers la Chambre haute.
De compter les troupes aussi.
C'est ce que nous dit effectivement la droite, la majorité sénatoriale, c'est-à-dire la droite sénatoriale, elle dit attention, c'est pas du tout du respect, c'est juste un piège qu'on nous tend pour compter les troupes, pour encore plus nous fracturer et voir quels vont être nos votes.
Mais c'est pas uniquement pour... Oui, enfin, c'est pour compter les troupes et surtout, on l'a bien vu, avec une manœuvre d'intimidation pour les municipales. Absolument. C'est-à-dire que le gouvernement essaye de pousser son avantage relatif acquis après les européennes et l'espèce d'effondrement que ça a suscité à droite pour justement mettre la pression en disant de toute façon nous allons attendre beaucoup de gages de vous pour tous ceux qui seraient à droite et qui voudraient se représenter, parce qu'il va y avoir aussi des sénatoriales où il faudra des investitures ensuite, et donc ils mettent la pression le plus possible sur les élus de droite pour dire si vous n'êtes pas avec nous vous êtes contre nous, et c'est ça qu'ils vont compter
demain. Des
élus
de droite qui sont assez fuyants en ce moment avec notamment la fameuse tribune, les 72 élus locaux, les 512 maires
de droite. De longue date.
Ouais. Allez, on marque une pause. 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
350 euros de baisse d'impôts en moyenne pour 12 millions de foyers. Le Premier ministre détaille dans son discours de politique générale l'allègement de la pression fiscale sur les classes moyennes. C'est massif, c'est clair, c'est net, selon Édouard Philippe, qui confirme que cela sera financé par un coup de rabot dans les niches fiscales. Sur la réforme des retraites, il y aura bien un mécanisme d'incitation à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte définir un âge d'équilibre de départ à la retraite. En partant avant cet âge, il y aura des décotes sur la pension. La date de la réforme n'est pas précisée. En revanche, pour l'assurance chômage, ce sera dès la semaine prochaine. Les plus grosses indemnités seront plafonnées. Et pour la
PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée dans la loi de bioéthique. Le Premier ministre promet un examen à l'Assemblée dès la rentrée prochaine. Avant le vote de la confiance très largement obtenue, l'opposition a fait part de ses griefs. Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, estime que le gouvernement veut continuer à tout détruire et il promet de lutter contre le rouleau compresseur de ce monde de violence écologique et sociale. Marine Le Pen est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour diffusion d'images violentes. C'était le souhait du parquet. En 2015, la présidente du Rassemblement national avait posté sur Twitter des images d'exaction du groupe État islamique. C'était pour dénoncer, selon elle, les violences de ces terroristes. Et puis ce sont très certainement les deux équipes les plus fortes de leur poule. La France et la Norvège s'affrontent dans une vingtaine de minutes maintenant pour leur deuxième match de la Coupe du Monde de football. Les joueuses de Corinne Diacre peuvent prendre la tête du groupe, même avec un match nul.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Gilles de Kiss évoquait à l'instant Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise qui a fait son grand retour aujourd'hui.
La suite du combat s'annonce donc pour nous dans des conditions très dures. Nous les assumerons. Mais n'allez pas croire pour autant que tout vous soit permis de ce seul fait, monsieur le Premier ministre. Car je vois bien que vous n'êtes guère encouragé à la lucidité. Monsieur le Premier ministre, savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection ? Mais je vois bien que non. Oui, c'était un référendum, et vous l'avez perdu. Et pourtant, vous voulez faire comme si de rien n'était. Vous pensez gouverner contre tout le monde, avec 20% des suffrages exprimés et 10% des inscrits.
Audrey Goutard, c'est le boss qui est de retour ?
Ah oui, là, c'était du grand Mélenchon. Hein. Mmh. Il y a une phrase que vous n'avez pas retenue, que je trouve qui résume bien son état d'esprit. Il dit « La lutte pour les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme ». J'ai trouvé que c'était une jolie phrase et ça démontre effectivement à la fois sa déception. C'est que, on le sent d'ailleurs dans son discours, il y a un ton quand même qui montre comme qu'il en a pris gros sur la patate. Ouais. La phrase que je viens de citer et qui montre qu'effectivement, c'est un homme de pouvoir et quoi, il peut être à terre, il continuera à essayer d'avancer et monter la montagne.
Qu'est-ce que vous répondez à Audrey Goutard ?
Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est un très bon orateur, probablement d'ailleurs le meilleur à l'heure actuelle sur la scène politique française, qu'il n'était pas à son meilleur aujourd'hui justement parce qu'on le sent affecté et on le sent justement dans l'inquiétude sur la stratégie exacte qu'il a amenée, même s'il confirme un certain nombre de choix pour le coup et notamment vis-à-vis des critiques qui ont pu être faites par Clémentine Autain. Il était dans un discours très catastrophique, très pessimiste. Donc il était dans un discours justement quand Clémentine Autain lui disait il faudrait mieux miser sur l'optimisme plutôt que d'attiser les colères ou de surfer dessus. Non, on voit un Jean-Luc Mélenchon qui reste sur ces bases-là. On voit qu'il a de la peine à comprendre le résultat qui lui est arrivé. Après, il était plus ou moins pertinent dans ses critiques au gouvernement. Oui, effectivement, le gouvernement ne représente que 20% des Français, mais Jean-Luc Mélenchon en représente encore bien moins. Et surtout, personne ne les représente vraiment. Et ça, c'est un point qu'il a soulevé. Et effectivement, de ce point de vue-là, je trouve qu'il avait raison.
Vous vous rappelez les critiques de Clémentine Autain. Il y a eu aussi le départ spectaculaire de Charlotte Girard. Oui. Savaria Rojec, tout de même, Jean-Luc Mélenchon, apparemment, il ne lâchera pas la bride.
Ah, visiblement, non, il ne lâchera pas, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Sébastien. Effectivement, c'était pas, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, le grand tribun Mélenchon, le grand orateur qu'on connaît, qui est sans doute effectivement, comme le dit Jean-Sébastien, un des meilleurs orateurs de sa génération. On savait que Jean-Luc Mélenchon avait été très atteint, très touché par les résultats des européennes, par les 6,3%. Et effectivement, je trouve que c'est un homme atteint et touché qu'on a vu à la tribune. Par ailleurs, sur le fond, ce qui est un peu surprenant aussi, il a très peu répondu sur le fond du discours, sur le fond des annonces, sur le fond politique. De ce que venait d'annoncer Édouard Philippe, il a plus effectivement parlé des échecs. Il a eu des phrases sur l'échec de sa famille politique. Nous sommes rayés de la carte. Une rude saison commence.
Oui, il a parlé de ça. Voilà, oui, effectivement. Pour
nous. Donc il a parlé de la France insoumise, de son échec personnel. Je trouve qu'il vivait cet échec personnel. C'est le Jean-Luc Mélenchon contesté en interne, contesté dans les urnes et qui n'a plus effectivement d'assise politique.
Un examen de conscience. Arnaud
Benedetti, pourquoi ce rappel de Jean-Luc Mélenchon à Édouard Philippe, vous aussi, vous avez perdu.
Alors, il était sur le fond, en effet, un ton en dessous de ce que l'on connaît du Jean-Luc Mélenchon au tribun, indéniablement le plus doué de sa génération. Vous avez parfaitement raison de le rappeler. Moi, je pense que l'analyse qu'il fait, quand même, il prend date après un échec. Et l'analyse qu'il fait est une analyse qui, au-delà de ce qu'on peut penser de Mélenchon, est assez juste sur le fond quand il rappelle que de toute façon la sociologie électorale, qu'on le veuille ou non, est contre aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est une réalité que produit malgré tout les urnes. Sauf que le problème, c'est que cette sociologie électorale, elle ne peut pas s'additionner.
D'une certaine façon, c'est comme s'il concédait le
mais
point.
Mais oui, mais
en fait.
elle ne peut pas s'additionner. Donc il n'y a pas à ce stade d'alternative, en tout cas crédible, à au moment où on parle, à Emmanuel Macron.
Il le reconnaît.
Mais le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que finalement, c'est qu'il n'a pas réussi à fédérer autour de lui les gauches. Et il était en mesure de le faire à un moment donné, compte tenu finalement de la position de force qui était la sienne sur le plan électoral après l'élection présidentielle. Le problème, c'est que finalement, il a cédé vraisemblablement à une tentation hégémonique qui n'a pas rassuré les autres partenaires de gauche. Mais certainement, il est l'homme qui connaît le mieux la gauche du fait de son parcours, qui connaît le mieux l'histoire de la gauche du fait de sa culture, qui est finalement peut-être le plus proche dans sa façon de concevoir la politique de celui que fut François Mitterrand en son temps, mais il n'a pas réussi aujourd'hui finalement à s'imposer comme le leader de gauche qu'il aurait pu être.
Et Yannick Jadot justement, qui se trouve un peu aujourd'hui dans la situation qui était celle de Jean-Luc Mélenchon au lendemain de l'élection présidentielle, ferait bien de méditer sur ce qui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon, parce que les mêmes prétentions pourraient vraisemblablement amener aux mêmes déceptions.
Et avec un électorat peut-être encore plus fragile.
Et en creux du discours du Premier ministre, il y a l'adversaire politique omniprésent, même Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs y a fait allusion cet après-midi, c'est évidemment le Rassemblement National. Écoutez son porte-parole, Sébastien Chenu.
Aucun calendrier, aucune mesure n'est budgétée. En ce qui concerne les baisses d'impôts, elles vont être maximum pour ceux qui les payent de 25 euros par mois. Donc évidemment, avec le coût de l'électricité qui augmente en parallèle, vous imaginez que l'effet est à peu près néant. Mais ça ne change pas fondamentalement la vie des gens.
Audrey Goutard, si peu de députés pour le parti de Marine Le Pen, et pourtant c'est l'adversaire désigné quasiment, même dans les discours, en creux des discours, comme je le disais à l'instant.
Oui, absolument, mais c'est notre régime parlementaire qui veut ça. C'est voilà, le parti de Marine Le Pen.
Sept
députés
seulement,
d'où la question de la proportionnelle, et qui évidemment se pose, mais à chaque fois elle se pose depuis Mitterrand, donc... Oui. À un moment donné, est-ce qu'on aura envie d'ouvrir les portes du Parlement à ce parti ou pas ?
Et pour répondre à votre question, vous dites, Édouard Philippe s'adresse au Rassemblement National, tout le monde s'adresse au Rassemblement National, mais parce que le Rassemblement National fait aujourd'hui 20-25% des voix en France, donc forcément c'est l'adversaire désigné pour tous.
Jean-Sébastien Ferjou, vous partagez ce point de vue, il y a un petit sujet quand même, 7 députés seulement, faut-il y revenir, et cette loi constitutionnelle qui est repoussée, or il y a dans cette loi, dans les textes proposés, évidemment la dose de proportionnelle.
Oui, je pense que c'est un vrai sujet, effectivement.
C'est un sujet concret.
Depuis longtemps, et que de ce point de vue-là, oui, il serait utile que 20-25% de l'électorat, en tout cas des suffrages exprimés, puissent être mieux représentés au Parlement. Parce que quand vous dites, est-ce qu'on aura envie, je ne sais pas qui est le on, mais si on raisonne un strict point de vue institutionnel et démocratique, il n'y a pas de on, il y a juste une règle qui devrait pouvoir faire en sorte que tous les citoyens soient égaux.
Et une réalité électorale, concrète.
Dans leur vote. Oui. Après, moi, il y a autre chose qui m'a frappé dans ce qu'a dit Édouard Philippe, c'était au tout début de son discours, il a dit « puisque maintenant la vie politique est structurée par des gens qui se déterminent par leur radicalité et la peur de l'autre ». C'est incontestablement le cas d'une partie de ces votes-là. Je pense que résumer les votes dits populistes ou les votes de protestation à ça, c'est une grave erreur politique et c'est aussi une intimidation démocratique, parce que c'est en quelque sorte leur retirer toute légitimité. C'est dire « regardez, il y a des colères, alors on veut bien être gentil, on comprend leur colère ». Mais quand même, ces gens-là, politiquement, ils sont pas à la hauteur. Et ça, je trouve que ça n'est pas décent dans une démocratie.
Arnaud Benedetti, erreur d'appréciation.
Oui, je pense qu'il y a une erreur d'appréciation, d'autant plus que le Rassemblement National n'est plus le Front National. Il préempte un espace politique qui n'est plus l'espace politique, qui était l'espace politique du Front National, qui est un espace politique exclusivement identitaire. Le Rassemblement National, aujourd'hui, préempte l'espace de ce que l'on peut appeler le néo-souverainisme aussi. Et ça change considérablement la perception qu'une partie de l'opinion publique peut avoir de ce parti.
20h50 sur France Info. Jules de Kiss pour le rappel de l'info.
La procréation médicalement assistée, la PMA, sera bien débattue au Parlement dès la rentrée prochaine. Un examen fin septembre, promet Édouard Philippe dans son discours de politique générale. Autre réforme sensible abordée par le Premier ministre, celle des retraites. Là, pas de date donnée, mais des pistes détaillées pour la première fois. Celle d'un âge d'équilibre à définir par le gouvernement. On pourra continuer à partir à 62 ans, mais avec des décotes sur sa pension tant que cet âge n'est pas atteint. La réforme de l'assurance chômage, elle, sera présentée la semaine prochaine. Deux mesures à retenir, le bonus-malus pour limiter l'usage des contrats courts et le plafonnement des plus grosses indemnités. Invité de France Info, Hugo Bernalicis de la France Insoumise estime qu'il y a un décalage flagrant entre ce discours et ceux de ceux qui nous gouvernent et la réalité crue du monde réel. Pour lui, le Premier ministre a surtout donné un discours de calendrier général. La cour d'appel de Besançon décide de laisser le docteur Péchier en liberté sous contrôle judiciaire. Elle rejette l'appel du parquet à l'issue d'une audience devant une trentaine de parties civiles. L'anesthésiste de 47 ans est soupçonné de 24 cas d'empoisonnement, dont 9 mortels. Les victimes présumées sont toutes des patients d'hôpitaux dans lesquels il exerçait. Elles vont bientôt faire leur entrée sur la pelouse du stade de l'Alliance Riviera de Nice. Les joueuses de l'équipe de France de football jouent leur deuxième match de la Coupe du Monde contre la Norvège. En ligne de mire, la première place du groupe. Dans l'autre rencontre de cette poule, un peu plus tôt aujourd'hui, le Nigeria s'est imposé 2-0 contre la Corée du Sud.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Au final, y a-t-il eu changement de méthode? Emmanuel Macron l'évoquait d'ailleurs hier à Genève devant l'OIT. Je vous propose de réécouter l'extrait inénervable.
Vous savez, mesdames et messieurs les députés, qu'il arrive parfois qu'on invective le Premier ministre lorsqu'il s'exprime, peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme, c'est peine perdue. Je suis inénervable. Changer de méthode, mesdames et messieurs les députés, c'est changer de ton. La détermination, la conviction, la passion que nous mettons à défendre nos idées, et nos idées ne sont pas identiques, ne devrait jamais nous conduire à l'arrogance, à l'agressivité, à la caricature.
Saveria Rojac, inénervable, on va essayer peut-être...
C'est le mot du jour, inénervable, même Jean-Luc Mélenchon n'avait pas l'air énervé. Je pense que l'avenir nous le dira, si la méthode, effectivement, si les méthodes changent et si à partir d'aujourd'hui, effectivement, voilà, vont être appliquées de nouvelles méthodes. En tout cas, effectivement, dans le discours, c'était beaucoup plus collectif. C'est déjà ce que je disais tout à l'heure, il a cité son équipe, ses ministres, il tend la main aux oppositions, il parle d'apaisement, de débats politiques apaisés. Donc oui, dans le discours, l'avenir nous le dira, mais dans le discours, c'était un peu plus collectif.
Genre c'est facile à faire jouer, on change de méthode ou ce n'est juste qu'un discours avec des mots.
Déjà, moi, je trouve que c'est un mot qui est dangereusement proche d'inénarrable, mais et par ailleurs, c'est un mot qui avait aussi été employé par François Fillon, pas inénarrable, mais inénervable. Il l'avait dit, il me semble, en 2009 aussi à l'Assemblée nationale. Maintenant, sur la méthode, non, je vois pas où il y a un changement de méthode, parce que oui, Emmanuel Macron, lui, a dit, regardez, maintenant, je suis plus en recul, c'est Édouard Philippe, mais on voit bien que c'est pas le cas, surtout. Et puis surtout, on voit, et vous avez lu comme moi, j'imagine, l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux hier dans Les Échos. Alors, c'est lui, mais d'autres syndicalistes pourraient le dire aussi. Il n'y a pas fondamentalement de changement. C'est-à-dire que le gouvernement, qu'il s'agisse de la réforme de l'assurance chômage, qu'il s'agisse de la réforme des retraites, prend plus de temps. Parce que ça, on a compris qu'Édouard Philippe voulait un changement de méthode de ce point de vue-là. Il a dit, on est allé trop vite. Le sentiment d'urgence nous a poussé à aller trop vite sur la taxe carbone. On n'a pas assez écouté les gens. Là, maintenant, ils prennent plus de temps. Est-ce que pour autant ils écoutent plus les gens? C'est pas en tout cas le sentiment qu'en ont leurs partenaires et c'est pas le sentiment qu'en a non plus l'opposition, puisque il y a eu un argument qui a été beaucoup utilisé par La République En Marche ces derniers jours, de dire regardez ces oppositions stériles qui ne votent rien, ce qui déjà est parfaitement faux, puisque les Républicains en tout cas ont voté pour partie les réformes qui ont été mises en œuvre depuis le début du quinquennat. En revanche, la majorité, elle, refuse catégoriquement tous les amendements d'où qu'ils viennent, dans la mesure où ils ne sont pas originaires de La République En Marche.
Arnaud Benedetti, qu'au fond, Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe ont repris le fil du quinquennat, on va dire rompu, interrompu, en décembre dernier avec les Gilets jaunes, voire même un petit peu avec l'affaire Benalla.
Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Ils ont en tout cas remis un peu de l'ordre dans leur communication qui leur avait considérablement échappé ces derniers mois, ça c'est évident. Mais en même temps, si vous voulez, on retrouve quand même quelque chose qui est essentiel dans le discours macroniste, c'est que finalement, le problème, c'est pas leur politique, c'est leur méthode, voire leur communication. Or, une partie de l'opinion répond, le problème, c'est votre politique. Donc, c'est d'ailleurs un discours classique que l'on retrouve dans d'autres majorités et qui n'est pas propre aujourd'hui à cette majorité. Mais il y a toujours cette tentation de considérer que finalement, c'est la méthode, finalement, c'est la pratique gouvernementale qui pose problème, puisque le fond des réformes, la réalité, c'est que c'est aussi le fond des réformes qu'une partie des Français ne partage pas.
Audrey Gouttard, dans le même ordre d'idée, il y a donc ce discours, Savaria Rojec, le trouver est quelque peu plus collectif, du moins dans la forme,
hein, la forme.
Par rapport au passé. Il y a aussi le monde réel. Je ne ferai que citer, par exemple, les crises, la crise des urgentistes et, qui gagnent tous les hôpitaux. Il y a le monde réel qui attend le gouvernement là pour ce démarrage de, du soi-disant acte 2 du quinquennat.
Oui, et d'ailleurs, pas un mot justement sur cette crise.
C'est un constat.
Pas de proposition précise. Alors, est-ce que c'est le lieu pour en faire? Je ne sais pas, c'est puisqu'on était plus dans un discours de politique générale. Ensuite, on sent quand même un Édouard Philippe plus rassemblé et plus sûr de lui. Souvenez-vous, il y a quelques mois, quand même, Édouard Philippe était en but aux 80 km/h. Il était remis en place par le président de la République. Il était en fâcheuse posture depuis les élections européennes et depuis certains bons sondages. Effectivement, on a l'impression qu'effectivement ce gouvernement se rassemble de nouveau.
Calme dans sa manière.
J'ai senti une plus grande sérénité, même si effectivement vous avez raison, c'est pas un sanguin.
Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a vu un Édouard Philippe véritablement le chef de la majorité, le meneur de jeu, voilà, qui lance cet acte 2 du quinquennat. Alors c'est peut-être effectivement qu'un calendrier de réforme.
Et vous verrez le même demain matin au Sénat, donc pour le même
on
exercice.
On le suivra demain
avec
matin,
un vote sans doute très très différent derrière. Audrey Goutard, il est de conclure, qui est l'invité de l'instant T sur France Info.
Une femme étonnante qui est la patronne d'une réserve naturelle de 4000 km² en plein territoire Zoulou et qui défend les éléphants et les rhinocéros. Vous allez voir, c'est
génial, génial. Avec vous, Jean-Sébastien Ferjou, sur le site d'Atlantico.
On revient sur le contenu, sur les détails, parce que comme souvent, le diable se niche dans les détails, et notamment du discours de politique générale, et notamment sur cet aspect des retraites dont je vous disais, les salariés du privé pourraient bien en faire les frais.
À lire sur atlantico.fr. Jean-Sébastien Ferjou, merci à vous. Arnaud Benedetti, la une de la revue politique et parlementaire.
Et bien dans quelques jours, un dossier consacré à l'Europe et aux résultats des élections européennes, entre autres.
Merci à tous les quatre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir, prochaine édition Désinformé de France Info. Bonne soirée.